D'être là devant vous. Désolé pour les oreilles rouges. Depuis le mois de mars, je porte un masque, mais mes oreilles ne se sont pas encore habituées. Merci Max pour l'introduction. Bon, il était question de fardeau, de porter un poids, et qui d'entre nous n'a jamais eu affaire à des difficultés, des poids qui sont venus à un moment donné dans nos vies alourdir nos existences. Qui n'a pas connu dans sa vie des échecs? Je vous cite juste, je me livre, trois particuliers qui me viennent à l'esprit, qui me sont venus à l'esprit alors que je préparais ce moment. L'un pendant mes études, alors que tout allait bien pendant l'école primaire, l'école secondaire, j'avais toujours eu de bonnes notes, je me rappelle, arrivé à l'Uni, et voilà que c'est l'échec. Je me retrouve à redoubler ma première année d'université. Dans le domaine du travail, alors que j'étais particulièrement fier de mon CV, j'avais toujours connu une progression dans ma vie professionnelle ascendante. Je me vois encore le jour où je me fais convoquer par mon patron pour me dire qu'ils sont obligés de se séparer de moi. Et je tombe dans le chômage. Incompréhension. Le Seigneur nous a donné trois garçons merveilleux. Ils sont grands aujourd'hui. Et nous les avons élevés dans la crainte de Dieu, dans le respect du Seigneur. Et nous nous sommes toujours efforcés d'être des modèles pour eux. Mais j'ai encore à l'esprit ce jour où un de mes garçons est venu m'annoncer qu'il ne souhaitait plus venir à l'église, qu'il avait décidé de faire son propre chemin. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, des situations semblables, des situations où on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Et c'est là qu'on va voir si la technique fonctionne. Est-ce que... Voilà. C'est le sujet de mon message ce matin. J'aimerais partager avec vous un texte dans l'Évangile de Marc que je vais vous inviter à chercher. J'ai laissé comme sous-thème « Comment pouvons-nous, personnes imparfaites que nous sommes, vivre comme Jésus ?» veut que nous vivions. Et je vous invite tout de suite à tourner vos pages dans vos Bibles, autrement on va le suivre à l'écran, pour ceux qui n'ont pas de Bible. Si vous n'arrivez pas à voir, bah vous êtes obligé soit de vous procurer une Bible, soit de vous avancer. Je fais rapidement la lecture. J'ai encore des pages, j'entends des pages se tourner. Marc chapitre 9, verset 14. À partir du verset 14. Lorsqu'ils vinrent vers les disciples, Jésus et trois autres de ses disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. De que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On lui amena, dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence l'enfant, il tomba et il se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par les jeûnes. » Une histoire qui est vécue par plusieurs personnages dans ce texte. Il est question d'une foule, il est question des disciples, il est question des docteurs de la loi, des scribes qui sont là, il est question de ce père qui amène son enfant dans l'espoir de le faire guérir. Et donc il est question de ce fils possédé, ce démoniaque. Et vous avez bien compris, enfin, j'espère comme moi, ces mêmes événements qui sont vécus par ces différentes personnes vont être lus de manière différente. Pour les disciples, ce sera une question d'échec. Mais au-delà de cet échec, au-delà de cette capacité à guérir cet enfant, n'y aura-t-il pas autre chose à chercher dans ce texte? Ce texte sont là alors que un moment particulier dans le ministère de la vie du Seigneur Jésus démarre. Autour de ces textes que nous venons de lire ce matin, par trois fois, Jésus va annoncer sa mort et sa future résurrection, trois jours après. Et à chaque fois, l'évangéliste Marc va préciser, les disciples ne comprirent pas. Sans doute, Jésus était en train de préparer ses disciples pour quelque chose qui allait venir. J'espère que ça va marcher. Oui, voilà, on est bon. Alors, juste un découpage rapide du texte. Donc, les deux premiers versets, versets 14 à 16, on voit un Jésus qui arrive à cet endroit. Ils descendent de cette montagne où la transfiguration vient d'avoir lieu. Il descend avec ses trois autres disciples et il vient à la rencontre des neuf qui sont restés dans la plaine. Disciples qui sont là, en train de discuter avec les scribes. Et Jésus s'intéresse à ce qui se passe. Il pose des questions. Versets 17 à 19. Alors que Jésus pose des questions et on sent un embarras général, une personne sort de la foule pour répondre à la question de Jésus. C'est le Père. Merci. Enfin, je remercie, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça va revenir. On voit dans la description que le Père fait de son fils, de la maladie de son fils, la lourdeur, la difficulté, le poids qui est là. On parle, il décrit son enfant comme possédé par un esprit, hors de lui, incapable de parler, incapable d'écouter, incapable de se mouvoir, pleinement prisonnier de ce qui lui arrive. Versets 20 à 24, on voit le Fils entrer en scène. Il est là, impersonnel, incapable d'interagir avec le Seigneur Jésus. Mais on voit là encore, dans le premier dialogue qui est établi entre Jésus et le Père, toute la difficulté, toute la souffrance de cet enfant et de son Père qui le vit avec. Versets 25 à 27, la foule revient sur la scène. À ce moment-là, Jésus intervient, menace l'esprit. Et l'esprit quitte cet enfant. Il guérit. Le texte dit qu'il devient comme mort. Mais alors Jésus le prend par la main et il le relève. Et enfin, les versets 28 et 29, merci, où Jésus, on voit le soin que Jésus prend avec ses disciples, il les prend à part. Et il y a un enseignement particulier qu'il leur a laissé. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. La slide suivante. Voilà le plan que je vous propose. Donc une histoire qui est lue différemment par par les personnes qui sont en train de vivre ces moments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet évangile à Marc a été adressé à des chrétiens qui étaient à Rome, donc qui n'étaient pas forcément familiers avec la culture juive. Et ça a été fait dans un contexte particulier. Les chrétiens à Rome vivaient la persécution. Ils passaient par des souffrances, ils passaient par des difficultés. Alors il faut se mettre aussi à la place de l'évangéliste Marc, qui, au travers de cette histoire, essayait de faire passer un enseignement pour ces lecteurs-là. Trois points que je vous propose. Un Dieu qui cherche à rentrer en relation avec nous. Premier point. Un deuxième point, une entrée en relation conditionnée par la foi. Et puis enfin, un troisième point, un maintien dans la relation dépendant de notre honnêteté. On voit dans notre texte d'aujourd'hui que Jésus est là. Il s'intéresse à ce qui se passe. Il va vers la foule, il va vers les disciples, il pose des questions. Verset 14, il les interroge. De quoi discutent-ils ? Verset 16, il questionne. Le Père, il répond à la question. Il cherche à comprendre, il cherche à savoir. Verset 19, il dit, « Amenez-moi cet enfant. » Verset 21, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » Jésus n'est pas indifférent à ce qui se passe. Il cherche à rentrer dans cette situation. Ça nous paraît évident. Merci beaucoup. À la lecture du texte, Jésus voit les besoins et il essaye d'intervenir. Verset 29, il intervient dans la vie des disciples. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne, Jésus explique en aparté à ses disciples. Il intervient dans la vie du Père. Verset 23, tout est possible à celui qui croit. Il essaye de relever la foi du Père. Il intervient dans la vie de l'enfant, verset 25, au moment où il ordonne à l'esprit de sortir de l'enfant. Sort de cet enfant et n'y rentre plus. Il y a une question qui a traversé l'histoire de l'humanité. C'est cette question que Dieu pose à Adam au tout début de l'humanité. Où es-tu ? Et vous savez, cette question a traversé les temps, a traversé les circonstances, a traversé les situations. Aujourd'hui encore, Dieu nous pose la question, où es-tu ? Et aux yeux de la Bible, c'est une évidence que Dieu nous cherche. Et pourtant, j'entends autour de moi des gens qui disent, mais Dieu s'intéresse-t-il vraiment à moi ? Et pourtant, dans ma vie, il m'est arrivé des situations où je me suis posé la question, mais est-ce que Dieu est réellement là ? Et des fois, il y a des questions qui restent sans réponse. Et je me dis, je comprends que des personnes, des gens se posent la question. Un petit témoignage. Je me rappelle, il y a quelques temps, c'est Sophie qui faisait le ménage, le grand ménage dans la chambre d'un de nos enfants, et elle tombe sur un cahier, un petit cahier. C'était un livre de prière. Il se trouvait que c'était un livre de prière qu'un de mes garçons avait écrit alors qu'il fréquentait l'école primaire. Nous, on ne savait rien, et on découvre à la lecture de ce cahier qu'en fait, il y avait un groupe de copains qui s'en prenaient à lui, qui le molestaient, qui le persécutaient. Et dans le petit cahier, sur une page, il y avait marqué « Aujourd'hui, tel groupe d'amis m'ont jeté dans une poubelle container. » Et il ajoutait « Je sais que tu prends soin de moi, mais pourquoi n'es-tu pas intervenu ?» On ne parle pas de la santé mentale de l'enfant dans ce texte. On sait qu'il était paralysé, on sait qu'il ne pouvait pas marcher, qu'il ne pouvait pas parler, qu'il ne pouvait pas entendre. Mais je me dis que peut-être dans sa tête, ça allait bien. Et cet enfant possédé, cet enfant malade, cet enfant prisonnier était là et regardait ce qui se passait autour de lui. Il essayait de comprendre. Et je me dis que parfois, la colère devait envahir son cœur. C'est dire, pourquoi moi? J'imagine ce père qui voit son enfant dans la souffrance, même si l'enfant ne pouvait pas parler, même si l'enfant ne pouvait pas toucher, embrasser son père. J'imagine parfois des regards se croiser et ce père voir dans le regard de son enfant le désespoir, la souffrance. Et j'imagine combien ça va être dur pour le père. Vous savez, quand Sophie m'a partagé ce petit cahier, il y avait la rage au fond de mon cœur. Et je me dis, heureusement que je ne l'ai pas su à ce moment-là. Parce que je serais parti chercher ces gamins, leur passer une branlée, et puis aller voir les parents, et puis les passer une branlée aussi, et puis les enseignants. Et voilà, c'était la rage, l'incompréhension. Je ne l'aurais pas fait, hein, je vous rassure. Et là, ce père qui est là et qui vit avec son enfant la souffrance. Alors oui, je comprends que parfois des gens puissent poser la question, mais où est Dieu? Pourquoi n'intervient-il pas? Est-ce que Dieu tarde? Est-ce que Dieu ne voit-il pas l'urgence? La bonne nouvelle dans ce texte, c'est que Jésus vient à la rencontre du Père. C'est que Jésus vient à la rencontre de cet enfant et que Jésus répond à leurs besoins de manière spécifique. Si tu as le sentiment ce matin, je ne te connais pas, forcément, toi qui es là dans cette salle, je connais certains, mais de toute manière, je ne connais pas vos cœurs. Si tu as le sentiment que Dieu t'a oublié, qu'il ne s'intéresse pas à toi, qu'il a mieux à faire ailleurs, avec d'autres. Rassure-toi, il ne tarde pas. Il est en train de travailler. Il est à l'œuvre. Je me plais à penser à la parabole de la brebis égarée, vous savez. Cette parabole où Jésus, le bon berger, laisse les brebis qui sont là, qui sont en bonne santé, qui se portent bien, et il va chercher celle qui était perdue. Dieu n'est pas absent, il ne tarde pas, il nous cherche. Gardons à l'esprit cette question, où es-tu? Une entrée en relation conditionnée par la foi, on avance dans le texte. Dans ce texte, on voit ce fils qui est prisonnier de sa souffrance. Il est incapable de s'en sortir tout seul. Impossible de se défaire de ce qui lui arrive. Verset 18 nous rappelle, l'esprit s'empara de lui, le jette par terre, il écume, il grince des dents, il devient tout raide. Verset 22, il le jette dans le feu, il le jette dans l'eau pour le faire mourir. Il était incapable, on l'a dit, d'exprimer sa souffrance. Verset 25, sourd, muet. Et on voit ce père qui est là, comme gelé, incapable d'intervenir dans la souffrance de son fils. Il y a ce dialogue qui s'établit entre Jésus et le Père. Jésus qui pose la question, depuis combien de temps il souffre? Depuis son enfance, répond le Père. On ne sait pas combien de temps ça représente. Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est plus? Vous imaginez le quotidien de ce père, de cet enfant? Et là, une réponse incompréhensible à première vue de la part du Seigneur Jésus. Au verset 19, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Quelle insensibilité de la part du Seigneur Jésus. On pourrait croire, n'est-ce pas? mais le Père ne se démonte pas. Il fait appel à la compassion de Jésus. Vous savez, quand on veut quelque chose, quand on veut y arriver, le père de l'enfant se dit « Ok, je ne l'atteins pas par la raison, je vais essayer de l'atteindre par son cœur. » Et le texte nous dit que le Père fait appel à la compassion de Jésus. Mais Jésus reste sourd à son appel au secours. C'est comme s'il ne se laissait pas émouvoir par la souffrance de ce père et de ce fils. Jésus veut lui faire comprendre que s'il intervient dans sa souffrance, il lui faut avoir la foi. Il faut croire. Il lui faut croire que Jésus peut. Il faut croire que Jésus, il veut intervenir dans sa vie. Un verset. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'ai cherché à mieux comprendre certains mots dans ce verset qu'on connaît beaucoup, ici dans cette salle, et je suis tombé sur une version un tout petit peu différente qui donne un éclairage nouveau, en tout cas pour moi. Et regardez ces petites précisions qui sont données par rapport à ce qui est agréable à Dieu. Dans cette version, on explique que ce qui est agréable à Dieu correspond à être en marche avec Dieu, être en chemin avec Dieu, aller dans la direction qu'il nous propose d'aller. C'est ça, être agréable et lui plaire, avancer avec Dieu. Une autre précision qui est donnée dans cette autre version, c'est que le fait de croire, ce n'est pas une onction, c'est indispensable. C'est la condition sine qua non pour s'approcher de Dieu. Et enfin, un dernier mot, c'est ce mot « recherché » dans nos versions traditionnelles, qui est traduit ici de manière un tout petit peu différente pour mieux faire ressortir le sens du texte, du mot original. Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent sincèrement et diligemment, en vérité, avec empressement, avec zèle. Il ne suffit pas de chercher, mais il faut chercher de la bonne manière. Combien de fois nous adressons-nous à Dieu de cette manière? Mais Dieu, ne vois-tu pas ce que je suis en train de vivre? La difficulté, l'épreuve par laquelle je traverse. Et c'est bien de dire à Dieu nos souffrances, nos problèmes, nos épreuves. Mais combien de fois nous sommes là à dire tout simplement « Je n'en peux plus, Seigneur. Regarde cette maladie que je porte depuis tant d'années. Regarde cette situation de chômage. Regarde mes fins de mois que je n'arrive pas à boucler. Regarde ma vie amoureuse. Je n'arrive pas à trouver l'âme sœur, etc., etc., etc. » Et Dieu nous pose la question dans ce texte, est-ce que notre attente en Dieu se limite uniquement à combler notre besoin? Ou est-ce que je comprends que par les besoins, les difficultés, les épreuves que je peux vivre, c'est une façon pour Dieu de me rapprocher de lui? J'ai encore à l'esprit cette histoire, cet homme de Dieu qui cherche de manière particulière la volonté de Dieu, qui monte sur une montagne, s'enferme dans un chalet. Pendant des jours et des jours, il prie, il jeûne. Et il redescend de sa montagne et puis les gens qui sont restés en bas disent « Et alors, c'est bon? Tu as la réponse ?» Et l'homme de Dieu de répondre « J'ai pas obtenu le don, mais j'ai rencontré le donateur. » Si tu peux, tout est possible à celui qui croit, lui dit Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est possible à celui qui croit. En tout cas, ça ne veut pas dire que moi, Jésus, j'ai une quantité et une qualité de foi suffisante pour tout accomplir. Ça ne veut pas dire que si tu veux que tout soit possible dans ta vie, il faut que tu aies une quantité et une qualité de foi certaines. Ce que Jésus est en train d'expliquer à ce Père, c'est que ce qui est important n'est pas le degré de notre foi, mais c'est la qualité de notre relation avec celui qui peut tout et qui veut tout accomplir dans notre vie. J'arrive au troisième point. Un maintien dans la relation qui dépend de notre honnêteté. On voit le père de l'enfant progresser dans sa compréhension de là où Jésus veut l'emmener. Et au verset 24, cette phrase qui revient avec force, en larmes, il s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Quelle confession merveilleuse, n'est-ce pas? Un aveu honnête d'insuffisance personnelle. Un aveu honnête de dépendance de celui seul qui peut venir à son secours. La réponse de Jésus ne va pas se faire attendre. Verset 25, il ordonne l'esprit, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Vous savez, il y a une chose qui nous éloigne de Dieu, c'est notre manque de foi. Jésus a enseigné quelques versets plus loin, chapitre 11, verset 22, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». C'est un commandement. Si nous manquons de foi, au regard de ce commandement, nous désobéissons. Si nous désobéissons, nous péchons. Si nous péchons, notre communion avec Dieu est rompue. Nous restons en dehors de la manifestation de la vie et la puissance de Dieu. Et très proche du manque de confiance, pas très loin, il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est placer sa confiance en une autre personne, en autre chose que Dieu. L'orgueil, c'est placer sa confiance en nous-mêmes, alors qu'on cherche des solutions pour nous en sortir nous-mêmes de situations difficiles que nous pouvons vivre, ou à rechercher des solutions humaines en dehors de Dieu. Je me rappelle encore, alors que j'étais jeune chrétien et que je vivais dans le sud de la France, on me confie la tâche de relancer le groupe de jeunes de mon église. Bon, j'avais été longtemps responsable de groupe de jeunes et je savais comment ça marchait, un groupe de jeunes. Je dis, pas de problème, je m'en occupe, je m'en charge. Et le groupe, c'était 4-5 jeunes, donc pas très motivant d'aller au groupe de jeunes dans ces conditions-là. Et je me rappelle, j'avais mis en place tout ce que j'avais appris les années auparavant, sur base de mon expérience. On avait fait des études, des réunions, des prières, on avait organisé des soirées, on faisait des choses en commun avec les autres églises. Et rien n'y faisait. Pendant des mois et des mois, ce groupe est resté avec ces 5 jeunes qui étaient là. Et puis des fois, je parlais avec les autres responsables de groupe de jeunes, et puis on prenait des nouvelles, et ils me disaient, mais vous êtes combien? Nous, on est 5. Et vous? Nous, on est 20. L'autre disait, nous, on est 30. Et nous, on est 40. Et je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et là, idée lumineuse. Je me dis, on va fusionner le groupe de jeunes avec le groupe d'ados. Ça ne va pas plus marcher, vous savez. On a agrandi le groupe de jeunes. C'était une solution humaine. Mais ce n'était pas une solution conduite par Dieu. Vous l'avez compris, c'était l'orgueil personnel. Au verset 18, on apprend que les disciples vivaient un échec, avaient été incapables de guérir cet enfant. au verset 14, on voit ses disciples en train de discuter avec les scribes. Je ne sais pas si vous savez, mais les scribes, certains d'entre eux en tous les cas, pratiquaient l'exorcisme. Et on pense très probablement que les disciples discutaient avec les scribes concernant les méthodes, les façons d'arriver à chasser ce démon qui n'y arrivait pas par eux-mêmes, selon le commandement que le Christ leur avait donné. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Je constate combien de fois j'ai besoin dans ma vie de confesser à Dieu mon incrédulité. Combien j'ai besoin de confesser à Dieu mes manquements. Combien j'ai besoin de dire à Dieu que j'ai péché par orgueil, que j'ai péché par manque d'humilité, par suffisance, par vanité, par dédain, par arrogance, par amour propre. Et la liste pourrait s'étendre. Est-ce qu'on se rappelle qu'un chrétien, un enfant de Dieu, un racheté pour l'éternité, il peut vivre en dehors de la communion de Dieu. Il peut vivre en dehors de la communion de Dieu, tout en étant enfant de Dieu. Ésaïe nous le rappelle, Ésaïe chapitre 59, verset 2. Il dit, ce sont vos péchés, vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés, vos manquements, vos imperfections, qui font que ma face vous est cachée. Ce sont vos péchés qui font que je ne peux pas vous écouter. C'est terrible, hein? Tu sais, je préparais cette étude, ce message, et je me suis posé la question, quand pour la dernière fois, j'avais confessé, quand pour la dernière fois, j'avais avoué à Dieu un péché, quand pour la dernière fois, je lui avais demandé pardon. Et j'ai cherché longtemps dans ma tête. Et je ne savais plus si c'était le jour même, la veille ou la semaine d'avant. Vous savez, on a tous des moments de prière, intenses pour certains. Et je vois en tous les cas pour ma vie des prières que je passe beaucoup de temps à demander des choses à Dieu. Et je réalise que je passe peu de temps à confesser. Cette confession est primordiale. Le Père n'aurait pas confessé, le Père n'aurait pas avoué son incrédulité. Il n'aurait jamais obtenu ce qu'il était venu chercher. Jésus ne serait pas intervenu dans sa vie. Dieu, il agit. Dieu se manifeste. Mais il attend à ce que on se mette à nu devant lui. Je conclue. Je ne sais pas dans quel personnage vous vous retrouvez le mieux ce matin. Est-ce dans la foule? Ces gens qui sont là, qui observent, qui sont là à distance, mais qui ne comprennent pas réellement ce qui se passe. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces disciples qui essayent de digérer cet échec et qui essayent de trouver une solution? Est-ce que peut-être la vie de cet enfant vous parle? Ce qu'il vit, sa souffrance? Je ne sais pas quelles difficultés vous traversez en ce moment. Peut-être que vous êtes dans une situation insoluble, incapable de vous en sortir. Est-ce que c'est dans ce Père que vous vous retrouvez? Ce père qui va faire une rencontre personnelle avec Jésus, une rencontre profonde, une rencontre véritable. Je reviens à la question, comment pouvons-nous, personnes imparfaites que nous sommes, vivre comme Dieu veut, comme Jésus veut que nous vivions? Venons à Jésus. C'est l'invitation de ce texte. Laissons-le nous rencontrer. Soyons honnêtes avec lui. Et sa divine puissance va se manifester dans nos vies. Vous savez, Jésus n'a jamais été dérangé de nos échecs, par nos échecs. Ça ne lui a jamais posé problème que nous soyons imparfaits. Ça ne lui a jamais posé problème que nous soyons pécheurs. En fait, il est à l'aise avec tout ça, le Seigneur Jésus. La Bible nous apprend qu'il a dîné avec des collecteurs d'impôts détestés, qu'il a passé du temps avec des pécheurs notables. La Bible dit qu'il a offert sa grâce à une femme qui venait d'être découverte en flagrant délit d'adultère. Jésus a choisi parmi ses plus proches collaborateurs des personnes, ses disciples, qui étaient paresseux, inconstants, incrédules. Et même alors qu'il était sur la croix du calvaire, aux derniers instants de sa vie, il a accueilli un criminel dans son royaume. Ça ne dérange pas nos imperfections, nos manquements. C'est comme s'il voyait un potentiel de notre imperfection. Mais vous savez quoi? Jésus est frustré avec la malhonnêteté. Rappelez-vous les paroles dures qu'il a adressé aux scribes. Race de vipère, sépulcre branchi, hypocrite que vous faites, aveugle conducteur d'aveugles. Alors approchons-nous du Seigneur Jésus. Laissons-nous rencontrer par Dieu et soyons honnêtes. Que Dieu nous bénisse.